Ce soir, j'aimerais continuer la réflexion avec la notion du lâcher prise et du non-attachement. Et de la saisie et de l'attachement. Parce que c'est Ezra Baïda qui dit « La méditation, c'est apprendre à lâcher prise, mais nous n'allons jamais pouvoir lâcher prise à moins de rencontrer nos agrippements. » L'abandon de l'attachement, c'est délicat. Parce que d'abord, nous ne voulons pas tomber, nous voulons abandonner en étant stable et ancré. Et ça n'est pas. C'est un peu comme l'équanimité, c'est une attitude intérieure. Et je peux parfaitement être dans le non-attachement par rapport à l'attachement. C'est-à-dire voir l'attachement qui est là et le laisser être. Mais comment faire pour le laisser être sans qu'il soit souffrance, sans qu'il soit démou pour l'esprit? Et c'est très important de nommer l'intention. Lorsque je sens qu'il y a l'attachement et que je ne sais pas très bien si quoi faire avec ça, parce que on m'a dit qu'il fallait être non attaché, parce que je veux faire bien, parce que... Alors je nomme mon intention. Mon intention, c'est la libération. Mais juste maintenant, je ne peux pas prétendre, il y a cet attachement. Ok, je laisse être. Et consciemment, je sens cette saisie qui est peut-être pas tout à fait bénéfique, mais qui au moins est consciente. C'est au fond comme sur le chemin, un passage un peu caillouteux ou tempétueux qu'il y a à traverser. Dans l'exercice de la méditation, nous passons toujours par ces périodes de tranquillité et puis après de bouleversement et de tranquillité à nouveau. Et quand c'est tranquille, quand c'est paisible, nous avons l'impression qu'on y est. Et on est toujours un peu surpris quand on n'y est plus. Et moins nous avons l'impression, ah ben j'y suis, plus nous avons juste cette attitude, ah ouais, maintenant c'est comme ça. Moins nous aurons le choc de ne plus y être. Le but de la méditation, c'est de bien vivre nos vies. C'est que toute cette saisie qui nous pousse à des actes et des paroles douloureuses pour moi-même et pour les autres lâche, et que nous puissions agir et parler d'une manière qui soit nourrissante et bienfaisante. Nous avons à apprendre comment renoncer à aller dans ce qui fait mal, et comment développer ce qui fait du bien. Et c'est comme une nouvelle spontanéité. Ça n'est pas quelque chose qui nous pousse sans cesse à faire des efforts, mais parce que nous pratiquons la méditation, parce que nous apprenons à se connaître à l'intérieur, alors naturellement, à travers le non-attachement, ce qu'on appelle la naissance, nous donnons naissance à la parole et à l'acte, devient plus sain. En retraite, nous sommes dans deux choses. C'est cet abandon au dharma. Je laisse faire le dharma à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire que j'arrête de prendre refuge toujours sur moi qui veut faire bien, qui veut contrôler, qui veut. La confiance est plus à, quand je dis mon intelligence intuitive, je questionne qu'est-ce qu'il y a à faire, et puis après je regarde ce qui se fait. Il y a moins cette référence à moi qui, soi-disant, sait. C'est pas grand-chose, finalement. Et c'est un grand soulagement de pouvoir lâcher cette impression que c'est moi qui dois tellement faire. Je laisse faire. Et j'ose me tromper. J'explore. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus un respect de l'instant. L'instant est utilisé de la bonne façon parce que pourquoi est-ce que j'utilise l'instant de la bonne façon? Parce qu'il y a cette confiance que s'il est là, c'est qu'il doit y être. Et la question n'est pas tellement comment est-ce que ça pourrait être autrement, qu'est-ce que ça va me dire? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? J'ai un truc que je voulais vous dire. Ah oui, il est là. Pourquoi je vous dis cette parole? C'est parce que c'est vraiment cette confiance dans Dukkha. J'ai compris Dukkha, donc je peux, quand l'expérience douloureuse émerge, je peux l'employer plutôt que me mettre en opposition. Et je me rends compte que c'est un messager divin, ça n'est pas un ennemi. Un disciple d'Ajahn Chah réparait un cassettophone quand il toucha accidentellement deux fils alors que la prise était encore connectée. Il reçut un choc et laissa tomber l'appareil immédiatement. Ajahn Chah sourit et lui dit « Oh, comment se fait-il que tu aies pu lâcher ça si facilement? Qui c'est qui t'a dit de le faire ?» Et c'est important de faire cette expérience, à quel point les moments de turbulence, et particulièrement en retraite, donnent lieu à un approfondissement de l'exercice et de la pratique. Nous avons ces cinq consciences sensorielles qui permettent le contact. Je reviens un peu là-dessus pour parler de la saisie, le moment où la saisie se passe. Et ces cinq consciences sensorielles sont consolidées par la conscience mentale. Donc le contact sensoriel émerge Par exemple, je vais pour le repas, je vois une soupe verte. Le contact sensoriel, c'est une soupe verte. La consolidation mentale, c'est « Ah, ça doit être aux épinards, j'aime bien. » Et à ce moment-là arrive cette création d'un moi qui se projette dans le futur, avec une saisie. Je vais en prendre peut-être 3 louches, parce que je pense que ça doit être très très bon. Et ça, c'est la naissance. Je donne création, c'est moi qui crée tout ça. Je donne création, c'est moi qui crée l'expérience. Il y a une création. Alors quand il s'agit de la soupe, c'est assez simple. Quand il s'agit d'un contact interrelationnel un peu délicat, il se passe exactement la même chose, mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pareil. Il y a un contact, j'entends, quelqu'un dit quelque chose, ça crée cette ressenti, cette perception, et si c'est agréable ou si c'est désagréable, il y a une saisie. Tanha, ce qu'on appelle tanha. Et à partir de là, la construction mentale fait son œuvre et peut-être que je vais passer à la parole ou à l'acte. Et c'est à nous de voir ce processus interrelationnel. Comment le contact crée soit l'enthousiasme et la détente, soit la fermeture et la tension. Et ça implique de la clarté ou de la confusion. Nous sommes donc toujours stimulés par le ressenti. Et cette stimulation pousse à la représentation. Il n'y a pas de représentation si l'expérience est neutre. Ça passe juste comme ça. Mais dès que l'expérience à une tonalité agréable, plaisante ou désagréable, déplaisante. Il y a cette stimulation qui fait que nous donnons une interprétation et elle est subjective, elle est conditionnée, elle paraît relativement objective. J'y crois. Et ce sont des impressions puissantes qui implique soit une résistance, soit un activisme, un engagement. Donc avec cette d'abord ce mouvement vert, et le mouvement vert c'est ce qu'on voyait dans les entretiens qu'il y avait avant midi. Le mouvement vert ou la soif, elle existe autant par rapport à l'agréable que par rapport au désagréable. Je m'attache à ma tristesse. Je m'attache à ma peur. Du moment qu'elle a un poids karmique, on pourrait dire, elle n'est pas neutre, elle ne fait pas que passer sans que je la remarque. Ce poids fait que je m'y attache même si elle me cause de la souffrance. Je m'attache à ma colère. Et cet attachement ou cette soif, cet élan vert, hein, à ça, c'est désagréable. Ah, c'est désagréable, ça me touche. C'est pour ça que je le prends. Et ce qui vient, c'est cette ce sens du moi. Elle m'a fait ça à moi. C'est elle qui m'a fait ça à moi. Il y a donc non seulement une saisie, mais encore une forme d'agrippement. Le mental maintient l'expérience, souvent longtemps, des fois pendant des générations. Et à cause de cette saisie, je réagis et je résiste, ou alors je veux avoir, je veux m'engager. J'ai l'impression que je dois faire, que je dois dire, que je dois. Ce contact interrelationnel psychique, c'est la source principale de la souffrance. Lorsque nous avons cette saisie qui émerge, cet attachement qui émerge, souvent, si, en tout cas si ça n'est pas conscientisé, nous basculons dans le monde du mental. Je crois que tout ça c'est vrai, c'est la réalité. Et je pars dans les constructions, je me coupe du lien, il n'y a plus de lien. Quand je suis dans les constructions, c'est du pur vent, c'est rien. Il n'y a plus de lien au corps, c'est de la création, et je ne le vois pas. Je crois vraiment que je fais l'expérience d'une réalité. Mais j'ai perdu le lien avec le réel. Essayez de vous mettre vraiment en colère en étant présent au corps. C'est impossible. C'est quasi impossible d'être vraiment en colère si je suis présente à mon corps assis sur la chaise. La colère est forcément une identification et une perte de contact avec la réalité. Et nous ne sommes pas obligés de donner suite à nos ressentis. Nous ne sommes pas obligés de partir dans la construction. C'est notre choix. Le but de la méditation, c'est vraiment de calmer ces énergies liées au contact ressenti, voir. Ah ouais, contact ressenti. On peut faire ça dans la journée. Tous les contacts qui viennent. Surtout quand tout d'un coup je suis un peu à l'étroit. Attends, c'était quoi le contact? Mais c'est des fois un truc tout bête. Je m'attendais à ce que quelqu'un me regarde, il ne m'a pas regardé. Ah, il ne m'a pas regardé. Et ça crée toute une histoire. Ou au contraire, voilà qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Oh, il a parlé en retraite. On ne doit pas parler. Quel est le contact? Quelqu'un a parlé. C'est Ajahn Suchito qui dit « Ça n'est pas moi qui crée la souffrance, c'est la souffrance qui crée le moi. » Ou pas. Ou pas. Soit je vais dans ce qui est ordinaire et je laisse ce processus se faire, ou bien alors je prends refuge dans ma sagesse intérieure, dans la clarté de la conscience. Et il y a un antidote à ce processus de création. Et ça permet de se dégager. C'est donc un peu paradoxal, parce que pour que ce détachement puisse se faire, c'est indispensable de nous engager dans l'expérience douloureuse, de nous engager dans l'instant tel qu'il est toujours, dans tous les instants tels qu'ils sont. De laisser être pour lâcher prise. Et de voir quand il y a le contrôle. Ah là, je contrôle. Et nous apprivoisons ce système de défense lié au contrôle. De voir qu'est-ce que ça fait lorsque je me sens impuissante. C'est dur de se sentir impuissant. J'apprivoise ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que ça fait quand je perds ma clarté mentale? C'est tout confus. Wow. Est-ce que je peux apprivoiser la confusion? C'est tout à fait différent de voir il y a la confusion, ou il y a la colère, ou il y a l'impuissance, ou il y a la perte de contrôle, ou le contrôle. Ou de dire je suis en colère, je suis impuissante, je suis en train de contrôler. Vérifiez comment vous dites les choses, parce que souvent ça a un effet sur l'énergie avec laquelle je me lie à l'expérience. Et c'est vrai que si la vague émotionnelle, le choc émotionnel est trop fort, alors automatiquement nous brûlons les étapes et nous nous retrouvons dans l'acte et dans la parole avant d'avoir vu quoi que ce soit. Et c'est la nature de l'esprit. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, d'en faire toute une histoire. Par contre, il y a tout à fait besoin de reprendre tranquillement la chose. Ah ouais, là je me suis franchement laissée aller quoi. Je pense pas que je lui ai fait tellement du bien, le pauvre. Ah ben qu'est-ce qu'il y a eu? Quel était le contact? Quel était le ressenti? Et je peux sentir le choc. Et je peux sentir tout ce processus qui s'emballe. Je m'emballe. Avec l'exercice de la méditation, nous n'avons pas à changer notre personnalité, mais nous avons à la reconnaître, de manière à lui donner de l'espace, à déprogrammer un peu nos schémas de comportement. Et nous en avons des schémas. Je ne sais pas lequel est le vôtre, de quel style vous êtes. Il y a ceux qui doivent toujours avoir ce qu'il y a de mieux, il y a ceux qui doivent bien réussir, il y a ceux qui doivent toujours aider, il y a ceux qui doivent toujours donner des bons conseils, il y a ceux qui doivent toujours vivre dans l'harmonie, il y a ceux qui doivent toujours être forts, tant pis s'ils se mettent en conflit, ils doivent être forts, il y a ceux qui doivent toujours faire rire. Il y a ceux qui sont toujours un peu énervés, il y a ceux qui sont toujours enthousiastes. Des fois, c'est agaçant. C'est les gens qui sont trop enthousiastes. Ceux qui sont fuyants, un peu apeurés, qui n'osent jamais. Il faut bien en avoir un. Hein? Mais celui que j'ai, est-ce que je peux le connaître? Est-ce que je peux l'apprivoiser? Est-ce que je peux lui donner de l'espace? Et à force de voir ces programmes quand ils émergent, alors leur pouvoir d'envahissement s'affaiblit. Et je peux un peu en rire, hein, plutôt que d'en souffrir. Et au fond, l'exercice, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais dans l'exercice de la méditation, comme il y a ces deux instances d'une certaine manière dans l'esprit, ce qui est moi aveugle et ce qui est sagesse ou non moi, souvent il y a une espèce de dialogue quelqu'un parlait c'est Léa qui disait, cette investigation, il y a comme un grand moi qui parle à un petit moi. Ah ouais, tu devrais faire comme ci, comme ça. Ah ouais, puis si tu faisais comme ci, comme ça. Et je me souviens une fois, quand j'étais dans une longue retraite, ça a commencé à me casser les pieds, d'avoir tout le temps cette espèce de grand moi qui causait mon petit moi. Ça devenait fatigant, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben écoute, maintenant c'est fini, je donne le pouvoir à ce petit moi. Je donne tout le pouvoir à ce petit moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Et j'étais tellement étonnée parce qu'il faisait tout bien. Il faisait tout bien. Pourquoi est-ce que j'essayais tout le temps de lui dire quoi faire? Et c'était chouette. Et puis là, j'ai retrouvé une parole. Je crois que c'est il n'y a pas tellement longtemps. Où tout d'un coup, j'entends, parce que moi, je suis une Jivavatana, je suis plutôt une dans la non-existence. J'entends tout d'un coup le moi qui dit, oh, mais vraiment, t'es nul. Ce que t'as fait, c'était nul. Puis j'entends une autre voix qui dit, ça, c'est vraiment méchant de dire ça à moi. Puis j'entends une autre, la même voix qui dit, ben non, c'est pas méchant, parce que c'est vrai, je suis vraiment nulle. Puis les deux moi qui disent, ah oh, ben c'est bien, là, on est d'accord. Et puis j'entends une troisième voix qui dit, non, mais arrêtez voir, de toute façon, il n'y a personne. Donc, nous cherchons à entrer en amitié. Moi et moi cherchent à entrer en amitié. Nous arrêtons de nous faire du mal, à culpabiliser, à nous juger. Et d'une certaine manière, la pleine conscience, sati, c'est de la bienveillance. Quand je vois ce qui se passe, je fais acte d'amour. C'est une réceptivité sage. Quand on parle du lâcher prise, il y a toujours ce point intéressant lié à mon bonheur. Je veux être heureuse. Je veux être heureuse. C'est Woody Allen qui disait « Ah, oh, c'est fou ce que je serais heureux si j'étais heureux. » Si je veux être heureux, c'est que je ne le suis pas. Alors, comment lâcher ce désir d'être heureux pour être heureux? Et la méditation apporte ça lorsque nous travaillons l'équanimité. Et lorsque nous apprivoisons toutes ces énergies différentes qui émergent et passent. Et c'est une chose que de savoir quoi faire avec les énergies en moi, mais c'est une autre chose de savoir quoi faire avec les énergies douloureuses dans ceux que nous aimons. Quand il y a des liens puissants, particulièrement les liens avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, ou nos amis proches, comment lâcher le bonheur de l'autre? Comment lui laisser sa responsabilité? L'attachement au bonheur de l'autre, ça n'est pas de la bienveillance. L'autre doit remplir mon besoin de bonheur. Il doit être heureux, autrement je ne le suis pas. C'est terrible. Bon pour lui. Et pour moi. Je ne supporte pas que l'autre souffre. Je lui enlève sa liberté. Et ça vient beaucoup de cet idéal. Je veux avoir ceci ou cela dans l'interrelationnel. Je veux avoir une belle famille. Je veux que l'autre soit en accord avec mes propres valeurs, qu'il soit plein d'esprit, joyeux, délicat, charmant, efficace. Et puis il n'est pas tout à fait comme ça. Et alors je mets l'autre dans une image. Au lieu de voir l'autre tel qu'il est, au lieu d'ouvrir mon cœur à tout ce qu'il est, il y a des bouts, c'est ouvert, mais il y a des bouts, c'est un petit peu dur, c'est difficile. Je voudrais que l'autre soit ceci ou cela. Et ma foi, le chemin de l'autre, c'est comme le mien. Il fait des détours. Pour grandir, nous n'avons pas seulement une incarnation, nous en avons plusieurs. Alors, patience. Non seulement avec moi-même, mais aussi avec les autres. Je me souviens quand je faisais une retraite au Forest Refuge, j'avais de nouveau déjà des histoires avec mon attachement, mes attachements familiaux. Et puis on avait un entretien tous les trois jours, puis j'avais parlé de ça. Puis c'était très chouette parce qu'elle m'avait dit, je ne me souviens plus son nom, elle m'avait dit, mais tu sais, si tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. Et la tendance en tant que mère, c'est tellement puissant, ces liens, ces filiations, quand les enfants ne vont pas. Et puis surtout qu'on n'a pas l'habitude que les enfants n'aillent pas. Peut-être quand on a... Je me disais, mais si j'avais l'habitude, je crois que ça irait mieux. Mais là, j'ai pas vraiment l'habitude. Enfin bref, toujours est-il que la tendance à faire, je vois à quel point ça va vite. Il y a un truc qui arrive, ma fille qui me demande quelque chose, au lieu que je prenne tranquillement le temps, je suis déjà au bout avant qu'il soit passé quoi que ce soit. Enfin, je travaille là-dessus. Sérieusement, pour vraiment sentir que nous ne pouvons pas faire pour l'autre, nous ne pouvons pas faire pour l'autre, nous pouvons partager à l'autre, mais nous ne pouvons pas faire pour l'autre. Et alors, c'est vrai que cet attachement puissant qui me fait souffrir, quand il est absent, je peux vraiment aider l'autre, et je peux vraiment être dans la compassion pour autrui. Et puis, quand tout à coup, ça devient cette espèce de lien codépendant, eh ben, je viens dans ma propre souffrance. Mmh. Oh, c'est mal. Nous croyons souvent que ne pas agir, ne pas donner, c'est un problème. Mais nous pouvons aussi donner notre silence et libérer l'autre de nous-mêmes. Je te libère de moi. C'est bon. Parce que si toute la pratique de la méditation est liée à la générosité, l'altruisme, comment est-ce que nous donnons ? C'est très important. Donc, avoir compris dukkha, avoir compris la nature de l'esprit, c'est aussi abandonner la saisie. C'est aussi abandonner cette impression que je suis indispensable, que je suis importante. C'est dur d'abandonner ça. Hein? Oh, non, je ne suis pas importante. Un petit peu. Et la différence entre être important, qui est lié à à la voir, à l'apparence, et le fait d'être précieux. Nous sommes précieux parce que nous avons en nous-mêmes cette sagesse qui est la vie, qui est la source, qui est rien et qui est tout. C'est important de le saisir. Chacun est précieux. Et alors c'est la fin, lorsque nous sentons cette différence entre cette vanité d'être important et cette préciosité de savoir être rien, n'être rien. Alors c'est la fin de beaucoup de choses. Hein. C'est la fin de l'angoisse, de la culpabilité, de la frustration, de la haine. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'arrive plus, parce que je suis prête, ça peut émerger. Mais quand ça émerge, la manière avec laquelle je me lie à l'expérience est tout autre. C'est ok que les choses ne soient pas comme je les veux. Ou plutôt, est-ce que c'est ok? Que les choses ne soient pas comme je les veux. Nous avons donc à faire confiance à la souffrance parce qu'elle fait grandir, à tranquilliser les ressentis pour que la saisie devienne consciente. Donc apprivoiser, voir et apprivoiser nos émotions, et alors la paix arrive. Nous ne pouvons pas vouloir la paix, c'est Ajahn Chah qui dit vouloir la paix, c'est comme vouloir une tortue avec une moustache. Vous n'allez jamais la trouver. Mais quand le cœur sera prêt, la paix viendra vous chercher. Alors là que j'ai pas mon choix. Dukkha, la souffrance ou l'impermanence, c'est cette première vérité noble. Et la saisie, tanha, c'est la deuxième vérité noble. Elle est noble. Elle est noble. Ça veut dire que nos attachements ne sont en aucun cas un problème en soi. Ils sont au contraire ce sur quoi nous pouvons poser notre intérêt, offrir notre conscience, notre attention, notre vigilance. Et au lieu de cette quête anxieuse ou stressée aux attachements du monde, il y a un contentement qui vient. Le Bouddha a parlé des attachements du monde. Nous sommes terriblement attachés à la réussite et terriblement rejetant de l'échec, mais nous le saisissons tout autant. Nous aimons tellement le gain et nous avons tellement peur de la perte. Nous aimons tellement la louange ou la reconnaissance et nous avons tellement peur du blâme et du mépris. Et nous aimons tellement le plaisir et nous rejetons tellement la peine. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Agréable, tchouk, désagréable, tchouk. C'est automatique. Et amener la lumière de la conscience fait que cette espèce de réflexe perd son côté de fascination ou de captation. Nous en sommes libres. Nous devenons libres de cette nature humaine. Nous continuons à fonctionner avec elle, mais au lieu qu'elle soit notre maître, nous l'employons. Et quand nous voyons clairement ce réflexe corporel lié au contact, les constructions naturellement lâchent, diminuent et finalement stoppent, parce que nous savons que ça n'est pas là que nous avons trouvé le soulagement. Quand nous parlons de cette deuxième vérité noble, il y a aussi ces deux tendances, le besoin d'existence, je veux être vu, reconnu, je mets un peu la tête des autres sous l'eau, tant pis, mais moi je survis, et le besoin de non-existence, où je me fais petite, ma foi, tant pis, les autres, ils ont tous la tête hors de l'eau, mais moi je me noie, tant pis. Et ce sont deux mouvements qui demandent à être reconnus. C'est très différent de prendre tout ça personnellement ou bien de voir, ah, ça c'est le besoin d'existence. Un petit peu de mépris pour les autres, un petit peu de, ok, hein. Ah, ça c'est le besoin de l'existence. Je me sens coupable, j'ai pas fait bien, je dois toujours faire mieux. Et c'est très bon de le voir parce que ça enlève de l'importance au moi. Le moi, d'abord, a moins peur parce qu'il a, si je dis que c'est le besoin d'existence, bienvenue au club. Qu'est-ce qui c'est qui vit le besoin d'existence dans cette salle, de temps en temps? Et si je dis c'est le besoin de non-existence, eh ben, pareil, il y a des copains. Qui c'est qui vit le besoin de non-existence dans cette salle? Donc c'est très bon de pouvoir nommer, de même que quand la souffrance arrive, ah tiens, c'est la première vérité. C'est autre chose que de dire, ah ça y est, nouveau moi. Donc ce sont des notions qui ne sont rien en elles-mêmes. Vous pouvez lâcher tout ce que je vous dis, sauf ce qui fait sens pour vous en lien avec l'exercice. Et de vraiment dire, quand vous sentez cette énergie de non-existence qui émerge, ah, c'est la non-existence. Je t'ai repéré. Moi, je t'ai repéré. Allez les copains, on est là-dedans pour le moment. Ah, c'est le besoin d'existence. Oh, j'aimerais tellement être aimée. Lorsque nous travaillons l'équanimité, c'est directement lié au travail sur la saisie. Parce que d'une certaine manière, l'esprit est équanime quand il n'y a ni aversion ni désir. Il est juste réceptif, tranquillement réceptif. Et c'est bon de sentir ou de se souvenir. J'ai le droit d'être sans préférence. Ou bien quand je sens toute cette complexité, comment ce serait si j'étais sans préférence? Il n'y a pas forcément besoin de répondre, mais de le dire. Je vous lis une parole d'Ajahn Suchito. En fait, on pourrait résumer l'entraînement d'une pratique spirituelle comme la transformation de nos attachements égoïstes en attachements désintéressés. L'attachement qui agit comme motivation pour nous pousser à découvrir les choses telles qu'elles sont, au-delà de notre besoin instinctif de gratification, cet attachement est une juste énergie pour nous permettre de traverser les épreuves qui jalonnent le chemin. D'une certaine manière, tous nos désirs sont des sublimations de notre soif de libération. Je désire avoir pour arrêter l'impression du désir. À la fin, nous devons apprendre à lâcher tous nos désirs, même le désir de l'éveil. Alors seulement, nous pourrons être libres. Nous courons après cet assouvissement du désir pour que nous arrêtions de désirer. Alors autant arrêter de désirer tout de suite. Alors allons dans cette préciosité du moi, cette fonction sage de l'esprit qui est aussi la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une expression de notre sagesse, de manière à pouvoir offrir le cœur de l'être à nous-mêmes, aux autres, ce que le Bouddha appelle l'inébranlable paix du cœur. Que je vous lis dans le Honeyball Sutta. Le Bouddha dit ainsi, Bhikkhu c'est les moines, cette vie n'a pas pour but le gain, les honneurs, la louange, la réussite, le plaisir ou la réalisation de l'éthique, de l'unification, de la concentration ou de la connaissance. Cette vie a pour but l'inébranlable paix du cœur. C'est son bon bois et la fin de la souffrance. Nous pouvons prendre quelques minutes en silence.